Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller. Chapitre 11. Gilles rentre de vacances. Il s'est rendu en Italie sous le soleil de Toscane où il a visité les trésors architecturaux de Florence. Il a pu musarder dans la campagne, savourer les couchers de soleil dans les villages, quelques jours de bonheur à Sienne, à Pise, quelques verres de Chianti, en se délectant devant une assiette remplie de produits locaux, l'huile d'olive coulant à flots. Ce matin, il revient au quotidien. Il faut se remettre dans l'ambiance. Il a appelé deux fois par semaine ses collaborateurs. Malheureusement, le dossier n'a pas beaucoup avancé. Chaque gendarme fait un bref résumé de son action. Une évidence s'impose à tous. Le sort de Benjamin reste toujours énigmatique. Chacun y va de son anecdote, le moment le plus cocasse étant le week-end précédant le 15 août. Des forains avaient installé leur attraction à Lianceville. Il s'agissait d'un spectacle de corrida aquatique. Une attraction disait des estivants. Dans une grande piscine, des vachettes sont lâchées. Des jeunes leur courent après pour leur placer des cocardes sur le dos. Le jeu peut s'avérer dangereux si l'on n'est pas habitué. Mais l'eau ralentit la vivacité des animaux. Enfin, ce qui doit arriver arrive. Un animal plus hardi que ses congénères saute en dehors de la piscine et réussit à prendre la poudre d'escampette. Parti dans le village avec quelques personnes à ses trousses, il fait la rencontre de sa vie. Face à la bête apeurée, Ernestine Ruot avance d'un pas ferme en psalmodiant quelques prières. Lorsque la vieille fille lève la tête, c'est pour apercevoir une paire de cornes qui l'embroche. Heureusement pour elle, la vachette continue sa course et sa capture 5 minutes plus tard met fin à ses envies de liberté. Mademoiselle Ruot, toute penaude, est assise sur le trottoir avec les perles de son chapelet éparpillées autour d'elle. Hurlant comme une hystérique, elle a cru rencontrer un suppôt de Satan. Il lui faut une bonne heure pour reprendre ses esprits. Elle accuse alors tous les mécréants du coin d'avoir fomenté une mauvaise action. Malgré tout, elle priera pour le salut de leur âme. En attendant, elle ramasse ses perles et part encore plus vite se réfugier dans l'église. Ernestine n'a rien de cassé. Il paraît que maintenant, elle regarde dans toutes les directions lorsqu'elle est dans la rue, jurant qu'on ne l'y reprendra plus. Elle sort avec un chapelet de rechange dans son sac, on ne sait jamais. Cette histoire fait beaucoup rire les gendarmes. Ils en ont besoin, car il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir l'impression de faire du surplace. Gilles remercie ses hommes. Il leur demande de continuer les investigations de routine et surtout de ne rien laisser au hasard. Mais au fond de lui-même, il sait que la tâche est devenue encore plus difficile. Benjamin a disparu depuis 77 jours. Autant dire qu'il y a peu de chances de le retrouver vivant. Il informe ses hommes qu'il va se rendre chez Aurélie et Guillaume pour faire le point sur l'enquête avec eux et leur signifier qu'il envisage d'alléger le dispositif en place. Il va réduire l'effectif de la cellule spécialisée. Le gendarme Buteau le prévient qu'il a remarqué de l'hostilité de la part des époux, comme s'ils se repliaient sur eux-mêmes. Il prend bonne note de la remarque de son collègue. Il va être prudent dans son approche. Ils reçoivent le lieutenant dans la cuisine de la ferme. L'accueil est glacial. Aurélie le fixe sans lui dire un mot de plus que le bonjour d'arrivée. Guillaume n'a pas levé la tête. Gilles a opté pour le silence. Son regard passe de l'une à l'autre. Le mutisme devient pesant. Aurélie craque la première et part en larmes. Guillaume se contente de baisser la tête. Il laisse à Guillaume le rôle de réconforter son épouse. Elle se reprend et s'excuse. L'enquêteur lui répond que c'est normal, ce qui leur arrive est inhumain. Guillaume lui répond sèchement, on ne dirait pas que c'est inhumain pour les gendarmes. Et Gilles de rétorquer qu'il participe à leur peine et qu'en quelques années de carrière, il a partagé de nombreux chagrins. Il avait besoin de partir un peu en vacances pour se ressourcer. Au bout d'un long moment d'un dialogue de sourds, les deux hommes et la jeune femme semblent mieux se comprendre. Gilles a décidé de remettre à plus tard l'allègement du dispositif en place. Mieux vaut attendre un moment plus propice. Devant un café, il fait le point sur les investigations. Il envisage d'autres perquisitions chez les voisins immédiats. Il y a Louis le Boiteux. Il ne révèle pas ce qu'il a appris concernant les séances de bronzage d'Aurélie. Les époux Bolton et la famille Dorel. Il avoue qu'il veut le faire en dernier ressort, mais sans grande conviction. Aurélie et Guillaume ne souhaitent pas en arriver là. Ils connaissent ces gens et ont en eux une confiance absolue. Gilles, par métier, a appris la prudence. Il accepte les demandes des époux en sachant qu'il fera ce que l'enquête et sa conscience lui dicteront. Le gendarme Angot vient de faire une trouvaille. Il n'en croit pas ses yeux. Il relit plusieurs fois le message qu'il vient de recevoir. Une information émanant de Scotland Yard a attiré son attention. Dans le cadre de l'enquête, il y a des procédures que les enquêteurs déclenchent de façon quasi automatique. Au cas présent, ils ont sollicité des renseignements à la police anglaise afin d'obtenir des indications supplémentaires concernant les ressortissants anglais vivant en France. Aujourd'hui, la réponse concernant le couple Bolton vient de tomber. Angot appelle son chef, qui, lui aussi, est surpris par la teneur laconique du message. Jack Bolton, né le 12 avril 1968 à Liverpool, domicilié à Lianceville, a fait l'objet d'une condamnation pour exhibition sexuelle. Dans le brouillard épais qui entoure la disparition du garçonnet, c'est une éclaircie dont il va falloir tirer profit. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. Les époux Bolton semblent mener une vie sociale normale. Les investigations de routine n'ont rien donné. Et voici que les fins limiers de Scotland Yard relancent l'affaire. Élémentaire, mon cher Watson. Il s'en veut de ne pas avoir insisté un peu plus fort lors des auditions. Ce qui l'étonne, c'est qu'ils paraissent très unis, ce qui est paradoxal dans le cas de perversion sexuelle. D'habitude, l'un des deux ne se trouve pas en phase avec son compagnon. Pas toujours, se dit le lieutenant, mais très souvent. Il déclenche les investigations sur les époux Bolton. Il souhaite une enquête discrète dans un premier temps, recueillir d'autres éléments avant d'intervenir. Telle est la méthode employée par le responsable de la cellule. Les gendarmes vont se renseigner auprès des villageois et des amis de la famille Bolton. Discrétion, voici le maître mot. La première information qui arrive jusqu'à leurs oreilles est intéressante. Il y a eu une fête chez Jack et Eleanor Bolton la semaine précédant la disparition du garçonnet. Un week-end entre adultes. Virginia était allé chez les parents d'une copine. Il veut en savoir plus. Il doit agir sans éveiller les soupçons. Il faut se renseigner sur les invités de la fête et sur ce qui s'est passé pendant ces deux jours. Tout peut être envisagé. Il se doute qu'il marche sur des œufs et qu'il convient de recouper les informations et d'être sûr avant d'intervenir de manière plus énergique. Il met en place un plan d'action auprès des époux Bolton et passe au peigne fin leur emploi du temps, recense les fréquentations. Une demande est obtenue pour vérifier les relevés téléphoniques, les appels passés durant le dernier trimestre. La banque locale est elle aussi mise à contribution. S'il y a eu quelque chose d'anormal, nous devons le détecter, pense le lieutenant. Les mouvements bancaires et l'état du compte fournissent de précieux renseignements sur les suspects. Jack Bolton a 37 ans. Il travaille pour une agence immobilière d'outre-Manche, spécialisée dans la vente de biens à la clientèle anglo-saxonne. C'est lui qui dirige l'agence, qui est une succursale d'un grand groupe. Il réalise de nombreuses ventes et est unanimement apprécié de la clientèle. Éléonore Bolton vient d'avoir 36 ans. Elle exerce le métier de décoratrice. Sa clientèle est mixte. Elle a autant de clients français que de clients anglais. Elle est grande, blonde, avec une allure typiquement britannique. Son activité fonctionne bien. Et là aussi, les clients apprécient beaucoup son talent pour mettre en valeur avec un regard différent. Le couple Bolton n'a qu'un enfant, la petite Virginia, qui a le même âge que Benjamin. Les deux gamins adorent passer un moment ensemble de temps à autre. Elle est gentille et réservée, elle ne se lie pas facilement, mais avec lui, le courant est passé immédiatement. Voici, en dehors du message de la police britannique, les informations dont dispose la cellule spécialisée à ce moment de l'affaire. Il y a une place vide dans la classe. La rentrée scolaire s'est déroulée sans Benjamin. Son absence fait peser sur le groupe une ambiance particulière. Les enfants extériorisent plus leurs sentiments que les adultes. Il y a de l'angoisse et du chagrin réunis. Qui ne s'est pas chamaillé avec lui? Qui ne s'est pas amusé avec lui? Qui ne l'a pas chahuté? Chacun se remémore un épisode vécu en commun avant les vacances et la disparition du camarade. D'habitude, les enfants bavardent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solennité dans leur attitude. Dans la corbeille des sentiments, le respect est au-dessus des autres. Chacun semble lui dire « Benjamin, reviens avec nous, tu vois, rien n'a changé. » Sa place est réservée. Aucun n'a osé l'occuper. Le consensus est général. Pas besoin de se parler. Cette rupture d'alignement surprend. Dans la rangée, une place vide, ça se remarque, surtout dans les premiers rangs. De temps à autre, un élève, le regard vide, dirige ses yeux vers Benjamin. Personne ne dira rien. Mais certains le voient assis au pupitre. Ils ne peuvent imaginer autre chose. L'optimisme étant l'apanage de la jeunesse. Madame Vidal, l'institutrice, laisse les enfants prendre leur marque. Parler de lui sera l'étape suivante. Dans l'instant, il s'agit de laisser chaque élève se positionner sans lui dicter sa conduite. C'est dans ces situations dramatiques que le groupe se soude pour former un bloc plus solide. La maîtresse souhaite en arriver là, qu'aucun ne se sente solitaire pour affronter la peur et l'inquiétude liées aux événements éventuels. Maintenant, elle demande aux écoliers de remplir la première page de leur cahier. Ils s'appliquent, et plusieurs se sont proposés pour remplir ceux de leurs copains absents. La solidarité joue à fond. Madame Vidal a du mal à ne pas essuyer une larme. La sensibilité de ses garçons et filles l'émeut. La première matinée s'avère difficile, lourde en symboles. Il y a une semaine que l'école a repris. Ce matin, l'institutrice corrige les devoirs donnés la semaine précédente. L'exercice est bien particulier. Il s'agit de noter et commenter une rédaction. Le thème a été choisi par les élèves. Envoyez une lettre à Benjamin pour lui parler de vos vacances. Exceptionnellement, les copies seront lues devant la classe et la note sera décidée en commun. La première composition est l'œuvre de Christophe. Madame Vidal demande à une autre écolière de venir au tableau lire le travail de son camarade. Jennifer est volontaire. Elle lit le texte de son copain. Mon cher Benjamin, mes parents ont donné le chien à la voisine. Les bagages sont dans la voiture, direction la Côte d'Azur. C'est la première fois que je vais à la mer faire du camping. C'est génial. Je pense à toi. Ce qui me chagrine le plus, c'est de ne pas savoir où tu es en vacances. Je me suis fait mordre par une méduse. Ce n'est pas méchant, mais ça fait mal. L'eau est très salée. Il y a beaucoup de monde. Et surtout, des filles sans soutien-gorge. Maman fait pareil, bof. J'attends avec impatience de savoir ce que tu as fait pendant les vacances. Ton copain Christophe. » L'institutrice applaudit. « Bravo Christophe. Bravo Jennifer. Alors, quelle note pour cette belle lettre ? Les enfants sont généreux. Finalement, tous sont d'accord pour mettre un 7,5. » Théo lit la rédaction de Virginia. « Benjamin, je suis allé voir mes grands-parents de l'autre côté de la Manche. Il a plu. Je préfère les Français, ils sont plus rigolos. Nous sommes allés visiter un château en Écosse, je ne me rappelle plus du nom. Et puis je voulais voir le monstre du Loch Ness. » Il n'a pas voulu montrer le bout de son museau. Ce sera pour une autre fois. Maman a visité les musées, alors que papa a visité les pubs. Je suis contente d'être de retour à Lianceville. Et toi, quand reviens-tu avec nous ? Tu me manques beaucoup, Virginia. » Les applaudissements furent aussi nourris que pour la précédente. Le groupe note à l'identique. Gaël vient restituer le devoir de Jimmy. « Mon ami Benjamin, figure-toi que mes parents ont eu la bonne idée de louer un appartement à Arcachon. Nous avons fait du vélo. L'après-midi, nous faisions la sieste. Mon père chatouillait souvent maman, qui s'essoufflait et râlait. Elle doit aimer les chatouilles, car le soir aussi, c'était pareil. Moi, je m'en fous, je ne suis pas chatouilleux. J'ai aussi tiré à l'arc, c'est difficile de toucher la cible. Je préfère me baigner. Et toi, dis-moi, ce que tu as fait, car tu es parti en vacances avant moi. Alors tu dois avoir plus de choses à dire. Ton copain Jimmy. » Madame Vidal a du mal pour abréger les commentaires sur les chatouilles de papa et maman. Certains affirment qu'ils faisaient l'amour. Alors Jimmy demande si ça chatouille l'amour. L'institutrice reprend tout ce petit monde en main. Le devoir est noté lui aussi. À 7,5. À la fin de la matinée, tous les devoirs ont été lus et corrigés. Certains sont cocasses, d'autres pathétiques. Ce qui ressort, c'est que tous attendent avec impatience et ferveur le retour de Benjamin. Comme à l'école des fans, le jury écolier a noté les copies ex aequo. Elle a pris la décision d'afficher dans la classe toutes les lettres. Cette initiative fait l'unanimité.